Bien de suite, Sonia Chivito, bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie le 24 décembre, en Belgique en tout cas, de votre dernière comédie « À la poursuite du Père Noël ». J'ai constaté que l'idée originale, elle est venue de Laurent Tirard, qui l'a sous-acquitté en septembre l'année dernière, et de Benjamin Dupasse. En fait, comment c'est venu votre implication? Parce que vous aviez travaillé tous les quatre finalement ensemble, non?
Oui, absolument. C'est Laurent qui.
Est-ce qu'il était peut-être déjà souffrant?
Il était souffrant et il avait écrit une première version avec Benjamin du film pour la fille de Laurent et qui avait 7 ans l'année dernière et il nous a appelé pour dire écoute. Qu'il aimerait beaucoup qu'on participe et qu'on me passer le scénario à réaliser. Donc on a réécrit ensemble avec Benjamin, avec Sonia et moi-même, parce que c'est vrai que c'était un rêve pour nous de faire un film de Noël un petit peu emprunt des films de nos enfants de nos enfants, ce qui était les films américains de Noël. On se disait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de films comme ça en France, de vrais films de Noël,
une pâte américaine quand même,
une pâte anglo-saxonne on va dire un petit peu, mais parce que voilà, si on parle de Maman j'ai raté l'avion, mais pour nous plus profondément il y a les films de Capra, il y a la vie est belle, évidemment.
Tu n'es pas encore né quand même,
on n'était pas encore né mais on a grandi dessus et c'est vrai qu'il y a une générosité de personnages, une générosité de se retrouver en famille comme ça à Noël pour prendre plaisir d'un film idéaliste aussi, c'est vrai, hein, mais et généreux. Donc voilà, on s'est retrouvés autour de cette histoire.
Donc il y a cette joie de retomber en enfance en fait, qui concerne tous les âges. Et c'est ça qu'on a aimé dans cette histoire, c'est de pouvoir offrir de 5 à 75 ans cette même communion dans la joie, dans le plaisir, en fait. C'était vraiment ça.
Alors, je me suis demandé si la scène d'ouverture, c'était pas un peu un hommage au monde du petit Nicolas de Laurent, parce que on a l'impression de se retrouver aussi dans un univers recréé, comme dans ces films, non?
C'est assez sympa. C'est vrai qu'on nous a parlé de plusieurs références. On nous a parlé aussi d'Amélie Poulain dans ce mouvement, en fait. Il y a et aussi un petit peu de Charlie et la chocolaterie. Il y a quelque chose comme ça dans ces films, drivés, on va dire, par des enfants ou par des âmes d'enfants. Et il y a un mouvement un petit peu presque musical, vous voyez, comme ça, de comédie musicale qui se retrouve là-dedans. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un côté BD aussi, peut-être. C'est peut-être pour ça.
On va y arriver après. Sonia, en fait, c'est depuis 2007, vous êtes associée tant en tant que productrice que co-scénariste, depuis Elfaut, non?
Depuis même avant.
Oui, mais là, on s'est rencontrés sur notre projet de la marque Jeu.
La marque. Oula, on a écrit peut-être 5000 pages, je crois, sur cette adaptation. Oui, on l'a écrite. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Et je pense qu'on avait vraiment la meilleure adaptation de la marque Jeu.
Il faut le dire.
Franchement, on l'assume encore aujourd'hui. Hein. On avait quand même Hugh Jackman et Gong Li qui étaient avec nous. Philippe Seymour Hoffman, effectivement, pour le. Oui, c'était formidable. Vraiment.
C'est vrai qu'on avait rajouté une femme. On avait pris cette liberté. Parce qu'on ne peut pas dire que dans les Blake et Mortimer, les femmes soient vraiment à l'honneur. Et là, on avait mis ce personnage de scientifique asiatique qui était joué par Gong Li.
Parce que Jacobs avait écrit « Si un jour je rajoute une femme dans un de mes albums, ce sera une asiatique. »
Ah oui, comment ça quand vous travaillez comme ça ensemble, une fois que le tournage, la journée est terminée, vous rentrez et vous continuez à travailler ensemble.
On travaille.
Ça doit être horrible. Donc vous devez quand même vous engueuler de temps en temps.
En fait, c'est la maison. C'est un truc de fou, je crois, parce que
on s'engueule beaucoup.
Elle m'engueule, mais moi, pas du tout.
Non, mais en fait, l'avantage de travailler comme ça avec la personne avec qui on vit, c'est que on est cash, on est sincère, et que quand on arrive à être content tous les deux, souvent je lui renvoie en lui disant ça sonne pas, quoi. Et lui il me renvoie en me disant ça me plaît pas non plus. Je lui renvoie et à un moment donné on s'assoit tous les deux et on trouve des compromis et là on est content.
Mais c'est vrai qu'on a des formations complètement différentes. Elle, c'est plus une intellectuelle, une littéraire, et moi je suis d'une formation très mathématique. Et du coup, c'est vrai qu'on se dit, si à un moment ça nous plaît à tous les deux, peut-être que ça plaire à une troisième personne.
Les films sur le Père Noël, il y en a des quantités. Ça vous faisait pas peur d'aborder ce thème et il fallait quand même se démarquer par rapport à tous ces autres films.
Alors, des films français ou belges sur le Père Noël, on compte. Mmh. Il y en a pas tant que ça. Dans les 10 dernières années, franchement, on s'est dit qu'il y avait une place, en fait, de faire un film avec du souffle et du rêve, en fait. À l'américaine, c'est vrai, pour la suite.
Mais c'est vrai que ça nous faisait moins peur que de se dire, si on ne trouve pas la bonne comédienne de 8 ans pour jouer le rôle principal, le film est mort. Et c'est vrai que ce pari était quelque chose, en tant que réalisateur, de quelque chose de très excitant. De se dire, il va falloir trouver la perle rare. Et on a eu cette chance, évidemment, on est allé puiser directement là où on trouve les meilleurs acteurs français depuis toujours, c'est-à-dire en Belgique. Et on a trouvé non seulement Théa Debaud qui est
exceptionnel,
non mais qui est exceptionnel. Il faut voir le film rien que pour cette jeune femme vraiment qui porte le film avec une.
Et vous commencez avec elle. Ça c'est quand même on est en plein dedans.
On est en plein dedans. Elle est de quasiment tous les plans et c'est ce que les enfants quand on voit les projections, ils sont fascinés, ils sont happés par le film parce qu'il y a une identification à cette jeune femme qui est au milieu d'un monde adulte comme ça et qui emporte tout le monde, toutes les générations. C'est formidable. Et tous les autres enfants, on les a aussi trouvés en Belgique d'ailleurs. Ils sont super.
En cette période de wokisme, parler de Noël au moment où on ne parle plus Pâques ni Toussaint, Noël est devenu vacances d'hiver. Vous êtes finalement contestataire, non?
On l'est de toute façon, sinon on ne ferait pas de cinéma. Mais c'est vrai que on est dans la résistance. On est absolument dans le combat de dire on peut encore croire au merveilleux.
On doit encore croire
au merveilleux dans un
cette
monde
vie qui est tellement dure, pleine de conflits. C'est vraiment croire au Père Noël, puis croire au merveilleux, c'est un cadeau en fait pour moi.
Comme vous le disiez, donc c'est une coproduction belge avec la participation d'RTL, du Média. Vous êtes venu tourner en Belgique, oui, à Bruxelles, à la Maison Anon. Vous êtes Art Nouveau, Horta, ça vous parle?
Ah ben oui, évidemment.
Comment ne pas l'être déjà?
Et quelle maison?
Évidemment, et quelle maison? Quelle maison?
Quelle maison?
C'est une chance incroyable d'avoir pu tourner en Belgique. Parce que on cherchait à donner un côté conte au film et aussi un côté intemporel, parce qu'il y a ça aussi dans le conte de Noël. C'est évidemment un film qui se passe aujourd'hui, mais qui pourrait se passer, qui surtout pourrait être vu dans 2 ans, dans 10 ans, sans avoir bougé. C'est vraiment cette intemporalité qu'on aime travailler. Sonia fait tout ça.
C'est Maria Carré au cinéma, quoi.
C'est Maria Carré au cinéma. J'aime beaucoup. Absolument. La garde. Et on a trouvé avec Plopsaland, avec le Jardin Floréal, avec les maisons Art Nouveau de Bruxelles, des lieux magiques en fait, vraiment qui participent au merveilleux et qui ont construit cet univers poétique qui fait le film.
C'est vous qui avez trouvé la panne, parce que c'est vrai que il y a quand même des séquences énormes de dans ce parc, Lotharland quand même.
On a eu une grande chance qui nous accepte, et ça s'est merveilleusement passé avec eux.
Il n'y avait pas trop froid, parce que c'est quoi, février, mars, là, maintenant?
C'était début février, c'était tout le mois de février, et on a eu bien froid.
Il faut être fou, pour se dire qu'on va tourner en extérieur au mois de février à la panne. Oui, on a eu une chance
incroyable.
On reproche souvent aux comédies françaises, c'est le rythme. Et là, vous l'avez. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous reprochent, justement, enfin, pas à vous, mais enfin, à la comédie française, en tout cas, de ne pas en avoir? Ça doit pas être évident, quand même, hein, de se positionner.
Moi, je suis différent. Au dire anglo-saxon, comme t'es vraiment anglo-saxon comme réalisateur, si tu veux.
C'est en fait et particulièrement pour un film pour enfants de toute façon aussi et pour grands enfants je dois dire hein, parce que c'est vrai que tout le monde l'apprécie mais il y a dans ce film un tourbillon qui nous emporte c'est vrai de joie de fête à la poursuite du Père Noël voilà il y a un mouvement qui s'est imposé au film.
Oui. Et c'est vrai que c'est un film dont je me dis, si les gens sortent avec le sourire.
C'est gagné.
Ouais, non, c'est formidable. Et c'est vraiment, je les ai regardés hier à Liège, parce qu'on a fait la bonne première à Liège.
Ils ont dit, mais moi.
Regardez, ils avaient comme ça, le sourire, c'est trop sympa.
Oui.
Qui dit rythme, dit mouvement, dialogue, pointu. Quelle place à l'impro?
Plus on prépare, plus on peut improviser. Parce que plus les acteurs sont au cordeau, savent exactement ce qu'ils doivent faire, plus on peut se dire, on s'abandonne et on fait autre chose. Il y a une place à l'impro dans le film parce que il y a des... Alors, non seulement à l'impro, mais à l'idée aussi. Tiens, si je m'asseyais là plutôt que là. Regarde si on profitait de cet objet ou profitait de cet endroit pour faire ci, pour faire ça. Et on s'adapte tout de suite pour rendre le film plus drôle, pour rendre le film plus séduisant, pour plus festif. Il y a avec Antoine Gouy, voilà, qui est le fils, qui joue le fils d'Isabelle Nanty dans le film, un plaisir à pousser les curseurs. Et cette mèche, merveilleuse, faut voir le film, qui fait qu'on peut en fait toucher à la jubilation parce que on se permet d'être libre et qu'il y a des acteurs qui vous font confiance et qui n'ont pas peur d'aller jusqu'au bout.
Oui, et c'est pas, il y a eu une vraie rencontre entre Isabelle et Antoine. Oui. Une espèce de truc positif entre eux. Ils se sont retrouvés comme une famille d'acteurs.
Dans le Maléfique.
Et là, et franchement, on assistait à des impros comme ça entre eux. L'équipe était morte de rire. C'est vrai qu'on peut pas tout mettre dans un film, mais ils ont été extraordinaires ensemble.
Oui, oui, ils forment les méchants du film. C'est vrai qu'un bon film, et particulièrement un bon film à la Disney, c'est un bon méchant. Et que Isabelle a été formidable dans ce rôle de patronne de biscuiterie, qui est évidemment avec
dynastique.
La tête du Nidashi, ouais.
Épouvantable.
Vous avez l'occasion de diriger Jean Dujardin, Jamel, il y a Ramsey, il y a Michael Young, Clavier, et ici, bien entendu, Patrick Timsy, des figures emblématiques de la comédie. Est-ce que ce sont des acteurs faciles à diriger ou est-ce qu'il y a aussi un peu d'ego parfois?
Je n'avais pas de joker. Hein? Oui.
Ils sont pas de nom. Allez.
Disons qu'évidemment, ce sont des très fortes personnalités. Ils ont chacun non seulement leur univers, mais aussi leurs idées. Et donc tout est pour le réalisateur de savoir à quel moment les suivre évidemment et prendre le meilleur d'eux-mêmes parce que c'est notre rôle et que ces gens sont débordants de talent, sinon ils ne seraient pas là. Et ce sont des grands professionnels, tous les noms vous venez de dire, et aussi avoir assez de talent de persuasion pour que
t'as bien dit ça
pour qu'ils puissent vous suivre dans le personnage, vous faire confiance, vous suivre dans la construction du personnage et rendre le film cohérent. Vous voyez, parce qu'on peut pas, vous parliez d'impro, on peut s'échapper qu'on a une structure, mais c'est la structure le plus important, c'est l'histoire qu'on raconte pour ne pas perdre le spectateur.
Mais c'est ce que tu sais faire, leur inspirer confiance. Tu m'écoutes, je sais.
Non, mais
si Sonia le dit, c'est
Sonia. Non, que je suis pas là, je suis là. Première critique, je lui passe rien, mais c'est vrai que j'ai cette histoire que j'adore, mais c'est Jean Dujardin rencontre James pour la première fois au début de Brice et Jean qui sait pas trop qui il est, lui non plus, et James lui dit non, fais-moi confiance, j'ai du talent. Et Et Jean, eh ben, il t'a fait confiance.
Oui, parce qu'il a été déstabilisé par ça.
Mais c'était dit tout à fait modestement. C'était pas du tout Ramna. C'était juste, il a dit, fais-moi confiance, je suis la bonne personne.
En fait, l'histoire est encore plus précise que ça. C'est, on tournait Brise de Nice depuis une semaine et Jean était en doute parce que Brise demande tellement d'abandon que, évidemment, l'acteur qui s'abandonne à Brise doit avoir peur du ridicule. Vous voyez, parce que c'est tellement caricatural comme personnage et en même temps extrêmement sincère, c'est très dur à jouer. Et on mettait 10-15 prises à avoir le mouvement de Brice et la générosité et la légèreté, pardon, et l'accent, et vous voyez, à ce qui se libère et qui soit le plus con possible pour jouer Brice. Vous voyez ce que je veux dire?
Il faut l'assumer.
Et je comprends que ce soit très dur. Et à un moment, on a eu cette discussion et je lui ai dit, Jean, il faut qu'on commence par le plus con et après on revient. Mais commençons, gagnons du temps, commençons par Brice au maximum de lui-même. Et c'est là où il c'était difficile pour lui, il sortait du convoyeur qui était un film sérieux, vous voyez, parce que Jean peut jouer des rôles aussi sérieux et tout ça. Et je lui ai dit effectivement cette phrase. Je lui ai dit, Jean, on se connaissait mal, vous voyez, on tournait qu'une semaine, effectivement. Et il m'a fait confiance et il s'est libéré et il a joué Brice merveilleusement.
Mais d'ailleurs, pour rebondir, Antoine,
oui,
a fait la même chose parce que Antoine est allé tellement loin. Et c'est vrai qu'il t'a... Et tu l'as poussé, on l'a poussé, on l'a poussé, et franchement, il était complètement libre. Presque trop, mais à l'écran, c'est génial ce qu'il fait en fait. Il est formidable parce qu'il est libre et parce qu'il t'a fait confiance.
Oui. Jean Dujardin, vous l'avez aussi dirigé dans Lucky Luke. Oui. Lucky Luke BD, et on en arrive bien entendu à notre Black et Mortimer. En série qui sort le 21 novembre chez Dargaud. C'est double exposition. On se trouve à ce moment-là. En 1964, c'est nouveau, recréer aussi un univers, non?
Oui. Alors, c'est une histoire d'amitié avec Laurent Durieux, le dessinateur et célèbre affichiste. Nous nous sommes rencontrés avec Laurent parce que j'étais un amoureux de son travail. Je l'ai démarché plusieurs fois.
Par le biais de François Scotten, finalement, non?
Ce n'est pas par le biais de François. C'est l'inverse. J'ai rencontré François par le biais de Laurent. Nous avons rencontré François par le biais de Laurent. Et grande chance, hein, quel être humain formidable.
Et son chien.
Bien sûr, évidemment que, qui a une énergie. Quand j'ai promené le chien de François, j'ai vraiment dit, François, comment tu fais? Et nous avons partagé ensemble notre amour du rétro-futur
avec Laurent.
Et tout de suite, on a parlé de cette exposition de 1964. Le projet n'était pas encore né, hein, de la double exposition. Et je lui ai trouvé à l'époque un pins de l'exposition. Que je lui ai envoyé. Et puis, les années ont passé, on se parlait comme ça, et tout d'un coup, il m'appelle et il me dit, James, on me propose d'illustrer un Blake et Mortimer aux séries, et je voudrais vraiment que ce soit vous, Sonia et toi, qui écriviez l'histoire, si tu veux bien. Et tout de suite, en fait, l'univers de l'exposition 1964 s'est imposé à nous, par ces échanges que nous avions eus. Et Laurent m'a fait le grand bonheur et la surprise de mettre en quatrième de couve Blake et Mortimer qui porte ce petit pin's que je lui avais trouvé de l'exposition.
C'est vrai que c'est assez fabuleux. Et moi, j'ai pensé à Epcot, Future World, puisqu'on crée quand même des univers assez fantastiques. Et bien entendu, on parle de miniaturisation, éventuellement. Et comme par hasard ou coïncidence, Jean qui se retrouve l'homme qui rétrécit, c'est incroyable quand même, non? Ça s'est fait comment, écrire à deux un ouvrage? C'est comme un scénario ou est-ce qu'il y a des contraintes scénaristiques spécifiques à la BD, Sonia?
Alors, oui, mais en fait, c'est une BD, c'est pas bulle.
Ah, non,
on est fait complètement l'histoire. Donc, ce qui était formidable, c'est que quand on écrit un scénario, on a toujours des contraintes. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que là, on pouvait imaginer les trucs les plus fous. Parce que j'étais pas en train de me dire, attends, ça, on va jamais pouvoir le financer. Donc là, c'est libre cours à l'imagination. Donc, tout se permettre. Et moi, je suis toujours en train de lui dire, mais non, on peut pas faire ça, c'est beaucoup trop cher, on peut pas écrire ça, on peut pas écrire ça. Et là, je dis, mais vas-y, on peut y aller.
Et c'est là. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on était le respect, bien sûr, du monde de Jacobs et des codes de Blake et Mortimer. Donc ça, c'est vraiment, c'est contraintes qui sont bien sûr plaisir, mais vraiment cette obligation, on va dire bien sûr, de respecter les codes, et aussi le fait de servir l'univers de Laurent. C'est pour ça que je vous parle d'univers rétrofuturiste. On a choisi aussi cet univers-là parce que c'est un univers qui est aussi propre à Laurent et qu'on voulait lui rendre ce cadeau qu'il nous faisait de pouvoir écrire une histoire de Blake et Mortimer pour nous. Sonia est la première femme à écrire une histoire de Blake et Mortimer.
Et c'est vrai que par rapport à un scénario, moi j'ai pris un énorme pied parce que c'est très bien écrit, Blake et Mortimer. Et moi je suis une vraie littéraire, donc je me suis coulée dans ce style. J'ai adoré cette expérience de prendre le ton avec les longues phrases, les adjectifs, les prépositions. En plus c'est vrai qu'on a tous les deux la nationalité britannique, et moi ces deux personnages... C'est toute la classe de l'Angleterre, quoi, en fait. Cette histoire d'amitié. Moi, j'ai adoré ces personnages, quoi. Enfin, c'est vrai que et l'écriture, la littérature, c'est de la littérature pour moi, en fait. Ça, c'est très particulier.
Et puis, on voulait. C'est vraiment un cadeau aux passionnés de Jacobs, et on voulait comme ça rendre hommage à Jacobs et on cherche
de Edgar de toute façon aussi.
absolument exactement, et merci et d'avoir remarqué ça. Et c'est vrai que on a cherché cet univers voilà rétrofuturiste nous permettait aussi, et cette histoire qu'on a construite nous permettait de rentrer dans un monde un peu parallèle et de créer un monde parallèle qui reste en cohérence avec la chronologie historique des histoires de Blake et Mortimer. Vous voyez qu'ils sont, on ne voulait pas être en porte-à-faux par rapport à ça, et en même temps, elle nous permet de réunir
les choses. Un beau résumé. Les mini mois là.
Voilà, mais c'est ce que je veux dire. Et ça nous permet de légitimer tout ça et de remettre les méchants ensemble, et que tout ça soit cohérent et tienne par rapport à l'univers de Blake et Mortimer. Et ça nous offrait aussi un espace et micro-aventure de Blake et Mortimer.
Alors, on parlait d'art nouveau dans le film À la poursuite, mais ici, c'est art déco avec l'hôtel Pierre de New York. Il y a le musée d'art moderne de New York. Il y a le Bauhaus. La totale, vous êtes vraiment des passionnés d'art, vous. 7e, 9e.
C'est vrai. C'est vrai que c'est les périodes qu'on aime bien.
Oui, absolument. C'est vrai. Ça nous fait penser aux rebelles de King Vidor, et si tu sais, hein, je sais pas si vous avez l'occasion de voir ce film qui est formidable, c'est marrant, qui parle évidemment Frank Lloyd Wright et architecture.
C'est vrai.
On rassemble 4 millions de spectateurs avec un Brice. Est-ce que faire un autre film, c'est une pression énorme, non?
En fait, c'est toujours miraculeux si un film se fait. Vous voyez, et c'est assez marrant. Il y a toujours autant de raisons dans le même film d'expliquer que pourquoi est-ce que ce film a été un échec, ou pourquoi est-ce que ce film a fait 10 millions d'entrées dans le même film. Hein, et l'histoire du cinéma nous le montre. Citizen Kane, pour commencer, vous voyez, entre le film qu'il est et qui a la façon dont il a été reconnu, puis son succès vraiment moindre au moment de sa sortie. Pour moi, ça a toujours été
C'est une énigme, c'est vrai.
Oui,
dans ma main.
Oui, une telle chance, en fait. Il faut tellement de paramètres qui s'alignent pour que le film soit réussi et ensuite qu'il rencontre un public. Vous voyez que finalement, je pense que c'est une chance de faire des entrées parce que on fait du cinéma pour faire des entrées. On fait partie d'une industrie. Ça vous permet de faire un film ensuite plus rapidement.
Ici, vous avez couru quand même, hein, parce que tournage en février, la post-prod avec Benux, c'est à l'arracher quand même. On vous a fouetté.
Ça, c'est sûr. Je vais vous dire, nos moments de repos était dans le train Luxembourg-Bruxelles. Parce que, si vous voulez faire Luxembourg-Paris-Bruxelles, prend moins de temps que de faire Luxembourg-Bruxelles en train. Mais au moins, on visite la Belgique, on s'arrête à toutes les gares, et on a beaucoup aimé ce train qu'on a emprunté pas mal de fois. Mais Et c'est vrai que c'était les moments les plus lents, on va dire, les plus posés de notre dernière année.
Mais c'est vrai qu'on peut... On peut jamais savoir combien un film va faire d'entrée, mais ce qu'on sait sur celui-là, c'est qu'on en est très fier. Donc, et ça, c'est important parce que c'est ce qui reste quand on fait ce métier. Celui-là, on se dit, il est heureux.
Ben, vous savez, c'est vrai que celui-là, il est réussi. On le voit parce que c'est marrant, je l'ai jamais dit, mais celui-là, je vois les gens qui sortent du film. Je regarde le film où il n'y a pas un moment où on s'embête et ces familles qui discutent heureuses à la sortie du
ça fait du bien
de la projo.
En ce moment,
ça fait du bien.
C'est un cadeau, vraiment. Ouais. Maintenant, si on te demandait quel est le film que tu rêverais de faire. C'est la petite BD, là. Celui-là, on ne dirait pas non.
Ça, c'est sûr. C'est sûr, je suis toujours... C'est vrai que cette BD de la double exposition est pour nous cicatrisante. Oui. Parce que ça nous permet de clore. Nous avons passé 5 ans, je vous dis, quand vous êtes France, quand vous êtes avec Tardieu, surtout avec ces acteurs, je vous dis, quand on est avec Gong Li, qui ne nous lâche pas pendant 4 ans et demi, Hugh Jackman qui est avec moi et qui dit s'il te plaît je t'en supplie dis à tes producteurs de me donner le million que je demande parce qu'on m'en offre 10 pour X-Men 2, on m'offre les planches à Broadway mais ce que je veux faire c'est ton film, je veux incarner Blake et que finalement le film ne soit pas c'est voilà et c'est marrant cette marque jaune et depuis les années 80 tout le monde essaie, il y avait Alain Corneau avant moi, après moi il y a eu Alex de La Iglesia qui a essayé avec Jack Bauer et Dr House pendant des années, il n'a pas réussi. Là, c'est un producteur belgo qui est de chez Belga, pardon, qui a les droits, qui devait le faire cette année avec le réalisateur, je crois, de Blanche Neige et
australien,
et ils n'ont pas tourné. C'était en coproduction avec Lionsgate. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose avec cette marque.
Oui, c'est drôle. C'est de malédiction. Ils sont là sur le papier.
Ou alors, elle attend de revenir vers moi. Elle attend de revenir vers moi. On peut toujours rêver, vous savez. Hein.
Sonia James, un grand merci. Donc, on rappelle à la poursuite du Père Noël qui sort en Belgique le 24 décembre.
Merci infiniment, Jean. Merci.